Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on va voir comment les données et les modèles climatiques peuvent aider nos sociétés à s'adapter.
À la ligne, cette tragédie, les inondations meurtrières dans le centre du Texas.
L'équivalent de 4 mois de précipitations tombées en quelques heures. Le bilan est terrible. L'inquiétude grandit à mesure que les épisodes climatiques extrêmes s'intensifient. En Californie, où un gigantesque feu a déjà ravagé 28 000 hectares de forêt.
On le dit silencieux et invisible, et pourtant, le changement climatique l'est de moins en moins. Les nuits, les jours, en mer, en montagne, partout en France et dans le sud de l'Europe, les records de chaleur s'accumulent, on étouffe. Et comme en 2019, comme en 2022, et comme lors des 33 autres vagues caniculaires de ce début de siècle, les reportages décrivent les galères, les fermetures d'écoles ou de chantiers, les astuces aussi, mais aussi parfois les morts causées par la chaleur. Une fois de plus, l'épisode extrême que nous vivons nous met face à la nécessité d'anticiper les effets du changement climatique.
C'est vrai qu'on a parfois un peu l'impression de radoter et que c'est étonnant de voir les gens étonnés face à la multiplication des vagues de chaleur été après été, à l'intensification des événements climatiques extrêmes, parce que tout ça finalement, les scientifiques l'avaient bien dit, ils avaient sonné l'alerte. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les a pas assez écoutés et est-ce qu'on va davantage les écouter pour adapter maintenant nos sociétés aux conséquences du réchauffement climatique qui sont déjà là? Eh bien c'est notre thème d'aujourd'hui où nous allons discuter des liens entre communautés scientifiques et la société. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui travaille sur ces questions et que je vous présenterai dans une minute. Mais je suis également, et comme d'habitude, en compagnie de Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Masa Kagayema, qui est directrice de recherche au LSCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, pour mieux comprendre comment est-ce que les données scientifiques, les modèles climatiques dont on a parlé dans de très nombreux épisodes jusqu'à présent, peuvent nous aider cette fois non plus à lancer l'alerte, mais à anticiper et à nous adapter aux effets du changement climatique qui sont déjà là. Bonjour Masa, bienvenue dans le Climat en question.
Bonjour Céline.
Merci beaucoup d'être avec nous. On continue notre série de podcasts consacrée à l'utilisation de la modélisation du climat pour informer les décideurs publics, privés et plus généralement toute la société. Et je le disais, le réchauffement climatique, c'est vraiment plus une menace lointaine, il est là. Ses impacts se font sentir sur nos infrastructures, on en parlait dans notre dernier épisode, nos écosystèmes et nos vies au quotidien, en particulier en ce moment en pleine canicule. Alors jusqu'ici, on a beaucoup parlé du rôle des scientifiques pour sonner l'alerte. Maintenant qu'il semble clair que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré ne pourra pas être tenu et va être dépassé, il y a un autre rôle qui devient tout aussi crucial, hein, c'est pas pour opposer les deux rôles, mais c'est celui d'aider la société à s'adapter. Alors, quel rôle peuvent jouer les modélisateurs pour nous aider à mieux nous préparer aux conséquences du réchauffement climatique?
Les modélisateurs peuvent fournir des informations climatiques sur le monde vers lequel on va. Le rôle principal des modélisateurs, c'est de pouvoir fournir des informations climatiques, souvent sous forme de données, mais aussi sous forme de narratifs, pour décrire le monde qu'il est possible d'avoir suivant les différents scénarios, en particulier les scénarios du GIEC. À quoi ça peut ressembler ce monde-là? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les différents acteurs qui modèlent notre territoire ou qui sont importants pour notre économie?
Donc finalement, c'est le même métier. Il ne change pas en tant que tel, mais c'est une pratique différente?
Oui, le métier de modélisateur ne change pas en tant que tel. Il y a toujours un aspect de développement des modèles, il y a toujours un aspect d'utilisation des modèles pour réaliser des projections. Ce qui change un peu, c'est l'angle des analyses qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être plus proche des utilisateurs des données, éliciter leurs besoins pour pouvoir fournir les meilleures données possibles. Et ce rôle-là, il est nouveau pour les modélisateurs. Certains modélisateurs restent côté développement, mais d'autres s'investissent pleinement dans le dialogue avec les parties prenantes, les décideurs, à différents niveaux, pour pouvoir fournir les meilleures informations possibles.
Et alors justement, pour faire ça, et c'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui aussi, vous avez lancé avec Samuel Morin et une équipe de chercheurs évidemment derrière vous, un programme qui s'appelle TRACCS, T-R-A-C-C-S, transformer la modélisation du climat pour les services climatiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les ambitions de ce programme? Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, c'est un programme qui veut faire le lien entre les modèles climatiques, les informations que vous produisez et les besoins, je le disais tout à l'heure, de la société, des décideurs?
Alors, TRACCS, c'est un PEPR, Programme et Équipement Prioritaire de Recherche. Donc, c'est en premier lieu un programme qui vise à garder notre capacité à produire des informations climatiques qui soient utiles à la société. Garder cette capacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des modèles qui soient capables de produire de telles informations, modèles climatiques, mais aussi modèles régionaux, modèles éventuellement basés sur des nouvelles technologies. Donc, garder cet écosystème en place et agile. Alors, ça, c'est la première chose, donc en termes de modèles, d'outils. Mais la deuxième chose, c'est en termes de ressources humaines. Beaucoup de développeurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc, il faut former la nouvelle génération des modélisateurs de climat, mais aussi d'utilisateurs de modèles pour cette interaction avec la société. Donc, Trax, c'est à la fois le développement des nouveaux modèles qui vont tourner sur des nouvelles machines à l'échelle exascale, mais c'est aussi un programme qui vise à développer des prototypes de services climatiques de manière co-construite entre parties prenantes et modélisateurs. Et ça, c'est un grand challenge. Donc, ça revient à élargir l'écosystème de la modélisation du climat pour y inclure le développement de services climatiques à l'interface avec la société.
Mais concrètement, ça ressemble à quoi? C'est quoi un exemple de service climatique que vous pouvez développer? Par exemple, est-ce que c'est un maire qui vous téléphone pour savoir s'il va y avoir des inondations dans sa commune dans les décennies à venir? C'est quoi le type de demande que vous avez?
Alors en fait, on a un des projets de Trax qui vise à l'élicitation des besoins et qui est vraiment à l'interface avec des utilisateurs et parties prenantes qui se sont déjà manifestées. On a par exemple des assureurs. On a des sociétés qui produisent ou qui transportent de l'énergie. On a des territoires, effectivement. Voilà, beaucoup de secteurs différents. Alors, un exemple qui fonctionne déjà, le service climatique, c'est le service climatique ClimSnow qui propose des scénarios d'enneigement pour le futur, pour les stations de ski, qui a été développé avec les acteurs de la montagne. Donc, c'est très concret. Il y a d'autres exemples qui sont disponibles. Et puis, dans Trax, on développera des prototypes de services climatiques qui, après, deviendront des entités qui fonctionneront d'elles-mêmes, on espère. Soit dans le domaine de l'énergie, soit pour des territoires. Donc, ça intègre les différents aspects, énergie, transport, infrastructure, etc.
Alors justement, c'est pas toujours évident pour ces communautés de se comprendre, en fait, tout bêtement, d'utiliser les mêmes mots. Parfois, il y a des concepts compliqués ou des données climatiques qui sont présentées avec des intervalles plutôt qu'un chiffre unique et précis. Il y a souvent des grandes marges d'incertitude. Comment est-ce que vous avez appris à vous parler, tout simplement, ou à parler le langage des élus locaux, des urbanistes, des planificateurs? Comment vous faites aussi pour vous adapter à leurs questions avec des horizons spatiaux ou temporels qui ne sont pas du tout forcément les mêmes que les vôtres?
Alors, effectivement, les enjeux sont multiples. Les échelles spatiales et les échelles temporelles sont multiples. Et puis, le vocabulaire utilisé doit être compris par les partenaires autour de la table. Et ça, c'est une première étape qui est très importante. C'est celle de l'élicitation des besoins. Et il n'y a pas d'autre solution que de se parler, effectivement, et que de définir ensemble des objectifs. C'est vraiment le projet Dialogue, qui est un des projets Trax. Alors, à titre d'exemple, déjà pendant les webinaires de Trax, en fait, on a des interventions des parties prenantes qui nous donnent des exemples de ce dont ils auraient besoin. Moi, je me souviens d'une personne de la SNCF qui nous disait « Nous, on a besoin d'avoir le nombre de jours où la température va dépasser 45 degrés, parce qu'à partir de ce moment-là, ça met en fragilité nos infrastructures. » Toute cette information-là, il faut que nous la collections et que nous puissions mutualiser ou rendre plus efficace notre production de données pour chacun des acteurs. Et ça peut être effectivement assez vertigineux de penser à tous les acteurs, donc il faut qu'on puisse rationaliser ça. Mais la première réponse que je peux faire, c'est vraiment d'éliciter les besoins, de pousser parfois. Alors parfois, c'est très concret, comme ce que je viens de vous dire. Parfois, c'est encore très flou, hein, avec des acteurs qui ne savent pas encore tout ce qui peut arriver. Et donc là, le rôle se transforme non pas en... Notre rôle, c'est pas seulement de donner de l'information et des données, mais c'est aussi de convaincre qu'il peut y avoir des problèmes, soit par exemple des températures extrêmes ou de précipitations extrêmes ou de tout autre événement. Attirer l'attention, essayer de voir si cela pose des problèmes au niveau des infrastructures, des territoires. Et donc, il y a un dialogue permanent qui doit se faire, hein, entre les différents partenaires. Donc, il y a différents niveaux de demande et de connaissance des besoins dès le début.
Oui, parce que finalement, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a à la fois l'événement climatique extrême qui va arriver à un moment T, boum, vraiment c'est soudain, et les changements peut-être plus progressifs comme l'augmentation de la température, mais qui sont quand même très importants à prendre en compte, puisque, comme vous le disiez, ça a des conséquences directes sur l'infrastructure. Et donc, il faut aussi prendre en compte cette, je ne sais pas si on appelle ça une nouvelle normale. Et du coup, donc, dans vos dialogues, pour l'instant, vous arrivez à traduire même les incertitudes qui sortent de vos modèles, donc vos données climatiques, avec les besoins de ces décideurs publics, par exemple.
Oui, il faut travailler sur les deux aspects. C'est sûr que le changement moyen s'accompagne de changements d'extrême qui sont souvent beaucoup plus impactants que le changement moyen lui-même, hein. Donc, c'est tout l'objectif aussi de décliner ce changement climatique à venir sous différents aspects et aller bien au-delà des moyennes. Quand les modèles climatiques produisent un ensemble de données avec, par exemple, un changement dans l'hydrologie allant d'un facteur 2 à un facteur 4 de plus de précipitations en certains endroits, c'est parfois très perturbant pour les décideurs, effectivement. Par contre, ça traduit vraiment un éventail des possibles. Et donc, un des enjeux, c'est de former les utilisateurs à cette incertitude ou à cet éventail des possibles pour la prise de décision. Et ça, c'est un des enjeux qu'on a identifié qui est transversal à tous les projets de Trax, c'est de pouvoir décliner cet éventail des possibles, ou de manière technique, on dit incertitude, aussi bien dans les résultats de modèles globaux jusqu'aux données et aux informations climatiques que l'on va fournir aux parties prenantes. Et donc, en fait, là, ça souligne bien le fait qu'on a besoin de se former et de former les parties prenantes à cet éventail des possibles. On ne va pas forcément pouvoir aller beaucoup plus précisément entre ce facteur 2 et ce facteur 4, mais on peut expliquer pourquoi. Et ensuite, en retour, les parties prenantes nous expliquent pourquoi c'est important d'avoir plus de précision. On peut retourner vers les modèles pour voir ce qu'il est possible de fournir comme données. Mais cet éventail, il est parfois irréductible. Il faut vivre avec parce qu'en fait, il contient les changements d'extrême. Donc, c'est aussi une façon de former aux données climatiques et aux données dans toutes leurs dimensions.
Mais justement, est-ce que vous avez des cas où on vous dit « bah non, c'est pas possible, moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus précis, je ne sais pas quoi faire avec cette incertitude pour mon investissement ou pour gérer mon infrastructure ». Est-ce qu'il y a des fois où tout simplement ça ne matche pas ? Vous arrivez toujours à trouver des solutions ?
Je dirais que pour l'instant, on n'est pas assez avancé pour dire que ça ne matche pas. On a affaire à certains partenaires qui sont très au fait des statistiques. Quand on parle aux assureurs, ils sont tout à fait formés pour traiter cette incertitude ou cet éventail des possibles. Pour l'instant, on a eu plutôt affaire à des partenaires qui savaient traiter ça. D'autres partenaires, peut-être qui sont un peu plus éloignés, auront besoin de formation, mais pour l'instant, on n'est pas assez avancé pour être allé jusque-là et constater que ça ne va pas. Parce qu'en fait, les partenaires qu'on a sont demandeurs d'informations climatiques. Et je dirais qu'il y a peut-être aussi des partenaires qui devraient être demandeurs, mais qui ne le sont pas. Et ça, c'est une dimension, pour l'instant, on ne traite pas. Si on regarde à l'échelle macroscopique, il y a peut-être aussi beaucoup de collectivités ou d'entreprises qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer ou qui ne peuvent pas le prendre en compte.
Oui, parce que là, finalement, on a parlé du cadre de votre projet Trax, mais c'est vrai que finalement, ces échanges devraient devenir de plus en plus systématiques. Et du coup, au-delà de ce programme, comment est-ce que vous voyez les relations entre la communauté scientifique, les modélisateurs et la société? Comment est-ce que ça peut se structurer? Du coup, concrètement, à long terme, ce serait quoi le modèle pour répondre à ces demandes de façon systématique, en fait?
Alors, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Le passage à la grande échelle, il est hors programme, hein, puisqu'on a promis de développer des prototypes. Mais clairement, c'est un des enjeux d'avoir un passage à la grande échelle qui s'appuiera vers peut-être des nouvelles entités, qu'on puisse aussi former des personnes qui soient à la tête de ces services climatiques en lien avec les scientifiques et qui puissent répondre aux décideurs. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui passent via des bureaux d'études. Typiquement, les plans d'adaptation au changement climatique sont souvent développés à partir de données de bureaux d'études, à l'échelle des territoires, par exemple. Donc, il faut aussi s'appuyer sur des entités qui existent déjà, Mais voilà, on va pas. Les modélisateurs, on est relativement peu nombreux. Il faut qu'on s'organise pour donner les meilleures données et puis pour former les futurs passeurs d'informations, je dirais. Et
D'accord.
ça, c'est un des enjeux de Trax.
Mais du coup, je reviens à ma question du tout début. Du coup, c'est le même métier, mais c'est quand même un peu différent, parce que ça vous oblige à sortir de vos laboratoires, des ordinateurs, pour aller vers les décideurs publics, la société, comprendre quels sont ces enjeux. Et on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Donc, s'ils imaginent le métier de modélisateur de demain, il est un peu différent quand même de celui du métier de modélisateur d'hier.
Ah ben oui, c'est sûr. En tout cas, pour ceux d'entre nous qui sont engagés dans la démarche,
Oui.
ça nous force à sortir et à discuter. Mais c'est ça qui est passionnant aussi, hein. Certains modélisateurs ne veulent pas le faire et comptent sur les autres pour le faire aussi, hein. Je pense qu'il y a des nouveaux métiers. Et puis, je pense que il y a aussi les jeunes qui aspirent beaucoup à faire des choses utiles à la société et pour qui ça a vraiment du sens. De faire un métier qui peut être très théorique, mais en lien avec des actions concrètes. C'est ce qu'on constate en fait. Nos jeunes recrues en thèse ou parfois même en master, finalement, ils se raccrochent beaucoup à. Ils veulent faire des choses. Ils veulent faire des choses pour la société directement. Et on a besoin de tous les profils en fait. On a besoin de théoriciens, mais on a aussi besoin de gens qui sont. Le problème, je dirais, c'est quasiment la formation, parce que des doubles formations sciences humaines et sociales, il n'y en a pas énormément, quoi. Là, il y a tout un domaine. Hein. Donc, dans Trax, il y a aussi un volet formation pour à la fois former les modélisateurs, mais aussi former les parties prenantes qui seraient intéressées.
Eh bien, merci beaucoup, Massa Kageyama, d'avoir été notre invité et bon courage pour ce programme TRAX. On s'en suivra les avancées et je me tourne maintenant pour continuer la discussion vers Sylvestre et Gilles. Alors, ça fait très longtemps que vous travaillez tous les deux dans ce domaine, Gilles avec Massa d'ailleurs du côté des scientifiques et des modélisateurs. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ce changement dont je parlais tout à l'heure, ou ce complément de rôle des scientifiques pour ne plus seulement sonner l'alerte, mais en plus aider à se préparer aux conséquences sur lesquelles ils avaient déjà alerté, et qu'est-ce que ça change dans ton travail?
Là, on enregistre l'épisode en pleine canicule. Ce qui a changé, c'est que malheureusement, ce qu'on avait prédit arrive et qu'on n'est pas forcément bien préparé. Alors, Massa, elle a bien expliqué tout ça. Je vais peut-être donner quelques exemples. Bon, effectivement, elle le dit, tu l'as dit aussi, Céline, à plusieurs reprises dans différents épisodes. Le secteur de l'assurance, il est extrêmement sensible au changement climatique parce qu'évidemment, avec les événements extrêmes qu'on voit, ça va poser des problèmes d'assurance et de réassurance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement est de telle ampleur que par exemple, pour une question que tout le monde connaît, qui sont ces incendies énormes, ben les gens qui habitent dans ces zones-là, quand ils veulent s'assurer contre l'incendie, la réponse des assurances, c'est on ne vous assure plus parce qu'on ne peut pas couvrir ce risque. Donc, ça va poser des problèmes très concrets. Alors, d'autres problèmes très concrets qui sont un peu en cascade, c'est que si tu t'es pas adapté à des canicules de 42 degrés et que tu n'es pas en mesure de maintenir dans les wagons de RER ou de métro une température normale, enfin, il va y avoir des malaises voyageurs qui vont se multiplier. Donc, à la limite, tu ne pourras plus faire circuler ton matériel quand il fera trop chaud. C'est un peu pareil pour les voies de chemin de fer. Quand il fait extrêmement chaud, comme ça qu'il y a des canicules, il faut régler les caténaires, c'est-à-dire faire que les caténaires soient toujours en tension, ce qui nécessite de retendre. Tout ça nécessite un travail de fond et de vigilance qui, dès qu'on sort de la fenêtre de confort pour laquelle les choses ont été prévues, eh bien, il faut savoir comment réagir.
Et toi, Sylvestre, qui as suivi ça donc en tant que journaliste scientifique, qu'est-ce que ça t'inspire, ce nouvel engouement vers les données climatiques lié cette fois-ci aux questions d'adaptation?
On peut se réjouir du fait que aujourd'hui, nombreux acteurs de la société, de la vie politique, sont en attente de savoirs scientifiques qui leur permettraient, devant chaque décision à prendre, se poser la question, la décision que je suis en train de prendre, est-ce que elle s'inscrit dans la stratégie d'atténuation de la menace climatique et d'adaptation au changement inéluctable ou pas? Et si elle s'y inscrit pas, à ce moment-là, c'est que c'est une mauvaise décision, il faut que je change mon fusil d'épaule, que je réfléchisse autrement, que je fasse autrement. Mais pour faire ça, il faut pouvoir comparer la décision qu'on prend à un savoir d'ensemble sur ce que le changement climatique va faire comme transformation et à un savoir particulier qui s'applique assez précisément à la décision qu'on est en train de prendre. Je sais pas, aménager un littoral, décider de quels moyens de transport on va mettre en œuvre, de comment on va construire le futur hôpital de la ville ou le système de circulation, est-ce qu'on va adapter ou pas la rue à des canicules? Est-ce que le bâtiment scolaire, est-ce qu'il sera adapté à une canicule au mois de juin, au moment où les enfants sont encore à l'école et même où les plus âgés passent des examens? Et pour ça, eh bien, les décideurs ou les citoyens, ils ont envie d'avoir une information relativement précise. Or, autant on a de nombreuses informations déjà, autant c'est pas toujours suffisant. Je prends juste un exemple. Dans le dernier rapport Trax, on voit bien que les projections sur l'évolution des températures, elles sont bien fiables. En revanche, si vous regardez les projections sur les précipitations, eh bien, sur une large partie de la France, pour l'année entière ou pour une saison, eh bien, il y a des grandes régions de France où il y a un désaccord sur le signe de l'évolution. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de précipitations par rapport à la période de référence à l'horizon 2050 ou 2100, avec un scénario où ça se réchauffe de 3 ou un scénario où ça se réchauffe de 4 pour la France, etc. On voit bien que là, par exemple, le gestionnaire de nos barrages hydrauliques ou le responsable de l'agriculture qui doit organiser sur le long terme, par exemple, des plantations pérennes de vergers, des arbres qui vont durer 30-40 ans, eh bien, il est un peu en difficulté. Il n'a pas toute l'information qu'il voudrait. Et le problème, c'est que il n'y a pas nécessairement la possibilité, d'un point de vue de la science, d'avoir tout de suite la réponse. Et là, on voit bien que il nous faut un nouveau régime de relation entre le savoir scientifique et puis notre vie politique, la société. Ce régime, c'est que il faut absolument qu'on fonde nos décisions sur ces projections climatiques telles qu'elles sont, avec leurs incertitudes. Et donc, ça veut dire aussi que pour gérer ces incertitudes, la seule solution, entre guillemets, raisonnable, eh bien, c'est d'être capable de se préparer au pire des projections. Ça veut dire qu'on doit commencer à poser les jalons de, si ça se confirme que c'est vers là qu'on va, eh bien, il faut mettre le paquet et probablement prendre des décisions pas très populaires en termes, par exemple, de zones à abandonner sur les littoraux, pas très populaires non plus en termes de où est-ce qu'on alloue les ressources. Est-ce qu'on les alloue à des consommations immédiates ou à des investissements dont l'usage sera pour nos descendants lorsqu'ils feront face à la réalisation de ces menaces climatiques?
Oui, ça nous amène aux arbitrages qui sont parfois difficiles, notamment dans le financement d'infrastructures et leur dimensionnement, leur préparation face à différents niveaux de risque. On en avait parlé dans l'épisode précédent, mais ça nous renvoie aussi au sujet, moi j'appelle ça des incertitudes, mais Massa, elle disait qu'on devrait plutôt parler avec raison d'éventail des possibles. Mais Gilles, on avait aussi fait des épisodes sur les effets de seuil, sur les limites de certains modèles, avec cette idée que parfois on a un éventail des possibles, et puis parfois il peut aussi se passer des choses qui n'étaient même pas dans notre éventail des possibles, parce que ça semblait même pas possible à cause de limitations de modèles. Enfin bon, je sais pas si je l'explique très très bien.
Si, c'est parfaitement pertinent, Céline. Effectivement, Massa, elle a pris la précaution, plutôt que de parler d'incertitude, de parler de l'éventail des possibles. Et ça veut dire quoi, en fait, l'éventail des possibles? Quand tu regardes le rapport du GIEC, l'éventail des possibles, ça veut dire qu'on a des scénarios narratifs qu'on va transformer en scénarios quantitatifs, qui sont en fait des scénarios où on va gérer plus ou moins bien la trajectoire climatique, c'est-à-dire faire des efforts sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le land use, sur les aérosols, toutes les actions anthropiques de l'homme. Et à partir de ça, on va faire ce qu'on appelle l'éventail des possibles, c'est-à-dire, et on va donner des informations qu'on va globales et qu'on va décliner au niveau régional, voire sub-régional, pour essayer d'éclairer la décision politique. Il y a deux problèmes à ça, comme tu l'as très bien dit. Un premier problème qui est qu'il y a aussi des seuils qui peuvent être franchis, des choses qui sont très non linéaires, qui sont difficiles à prévoir vu qu'on va très rapidement vers de l'inédit. Donc ça rentre pas forcément dans l'éventail des possibles. Et puis, il y a le fait qu'il y a des choses, comme Sylvestre l'a indiqué, autant pour les températures, on est plutôt très fiable, autant pour les précipitations, ça reste difficile. Alors, bon, il y a quand même des choses qui sont tout à fait robustes. Par exemple, le fait que la Méditerranée va s'assécher, c'est le cas déjà. Et donc, en particulier pour la France, le fait que le sud-est de la France va devenir extrêmement aride et chaud, c'est déjà en cours. Le fait que le nord de la Seine va être beaucoup plus sujet à des précipitations et à des inondations, c'est déjà aussi en cours et c'est ce qui avait été prévu. Mais il n'empêche que pour savoir si à Rennes ou sur tel barrage hydrologique dans les Alpes, comment on doit gérer compte tenu de l'évolution des précipitations, ça reste un problème difficile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut continuer à faire de la recherche et augmenter nos capacités en termes de déclinaison, ce qu'on appelle le downscaling chez nous, c'est-à-dire de déclinaison régionale pour donner des informations fiables à plus petite échelle. Bon, ça c'est une chose. Une autre chose qui est importante aussi, je pense que ça transparaît un peu dans ce que Massa dit, c'est que ce PEPR Track, là, donc ce grand programme fédérateur, il est un peu là pour permettre aux demandeurs, c'est-à-dire aux acteurs sociaux, d'avoir des réponses à leurs questions. Ça demande un travail très pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est pas simplement de, comme elle l'a expliqué d'ailleurs, de pourvoir des données, de donner des données, même downscalées, même à la bonne échelle régionale, pour que les gens s'en saisissent et savent l'utiliser. Ça nécessite un travail de long terme. Et il n'y a pas de création en France d'institut de l'impact, par exemple, qui serait pluridisciplinaire et de long terme. Il y a le fait qu'on essaie d'avoir des chercheurs qui s'occupaient d'autres choses et qui maintenant vont s'occuper davantage, vu l'urgence, de scénarios d'impact et d'adaptation.
Et ça, on va continuer à en parler dans cette série d'épisodes. Mais toi, Sylvestre, justement, est-ce que tu as vu des exemples de ça, de communautés scientifiques, politiques ou économiques qui arrivent à travailler ensemble pour traduire les résultats scientifiques de façon plus concrète et qui réussissent à informer des décisions, au final, qui, sinon, auraient été prises différemment?
Alors, dans les 15 dernières années, on va dire, j'ai eu deux exemples de comment on peut organiser le travail des scientifiques pour qu'ils fournissent à la société une information intégrant l'ensemble des données permettant de prendre une décision dans le cadre du changement climatique. Le premier exemple, c'est lorsque le PDG de l'IFREMER de l'époque, Jean-François Münster, avait demandé à ses équipes de produire un document intégrant l'ensemble des disciplines scientifiques de l'IFREMER, allant de l'océanographie physique à l'économie des pêches, en passant par la biologie, etc., pour rédiger à l'attention des dirigeants et des citoyens habitants sur le littoral, on va dire de la Bretagne, de la Vendée, une vision d'ensemble des défis à relever et des connaissances disponibles à l'époque sur les impacts du changement climatique sur l'économie, les pêcheries, la gestion du littoral, etc., etc. Et cet effort inédit, il a été fait à l'initiative d'un dirigeant, d'un organisme de recherche où il y avait déjà des disciplines très différentes de représenter, et un dirigeant qui avait le souci d'être le plus utile possible à la société et au débat politique.
Et rapidement, tu disais que tu avais un deuxième exemple?
Et un autre exemple, c'est quand, dans la région d'Aquitaine, sous la houlette d'un scientifique spécialiste des modélisations numériques du climat, Hervé Le Treut, une équipe de pluridisciplinaires avait fait un travail similaire, mais s'intéressant au continent et pas seulement au littoral, dans l'objectif de fournir un cadre de réflexion pour les décisions à prendre à l'échelon régional Aquitaine. Et on voit bien que ces deux initiatives ont été prises par des scientifiques et en l'occurrence pour l'Aquitaine aussi, en réponse à une demande politique, qui avaient bien compris que c'est bien joli de donner des paramètres climatiques futurs, mais qu'il faut confronter ça avec des informations très diverses, qui sont de l'ordre de l'économie, de la sociologie, comment les gens se transportent, comment ils habitent, comment ils étudient, etc., qu'est-ce qu'ils produisent, pour donner le moyen aux citoyens et aux dirigeants politiques de confronter les envies qu'ils ont, les décisions qu'ils veulent prendre avec le cadre du changement climatique.
Mais dans ces deux exemples, on n'est pas encore, comme disait Massa, au stade de la mise à l'échelle. C'est pas encore des choses systématiques. Ça dépendait avant tout de volonté individuelle ou de concours de circonstances.
Alors, il faut réussir à faire ça à l'échelle de la France, bien sûr, mais il y a un énorme travail, on va dire, sectoriel à faire en réponse à des défis, soit régionaux, soit dans différentes branches de l'économie ou de la vie. Et pour ça, il faut quand même des organisations capables de mettre ensemble des scientifiques et en dialogue avec les citoyens et les partis politiques, pour que ces derniers posent leurs questions, disent bah c'est pour nous c'est quoi les enjeux en termes de d'économie, de deniers publics, d'organisation de la vie productive, de transport, parce que c'est pas facile, c'est pas obligatoire que les scientifiques aient en tête les questions que se posent ces dirigeants ou ces citoyens. Donc il y a tout un travail d'organisation pour mettre ensemble les questionnements et la construction de la réponse intégrée d'un panel de scientifiques très large. Bon, évidemment, on peut dire que c'est l'exemple du fonctionnement du GIEC, sauf que le GIEC, il voit ça à une très, très, très large échelle qui ne permet pas nécessairement de répondre à la question d'un président de conseil régional ou voire d'un membre du gouvernement ou d'un dirigeant d'entreprise en France. Donc, il y a un énorme travail à faire qui suppose de bousculer beaucoup d'habitudes, de détruire beaucoup de murs et c'est un travail de longue haleine. Les réponses, elles sont rarement données dans la semaine qui suit la première réunion. Mais c'est seulement si on arrive à faire ce travail-là qu'on pourra véritablement fonder nos décisions collectives, nos décisions politiques sur le savoir existant.
Alors là-dessus, je reviens vers toi, Gilles, parce que bon, oublions pas qu'il y a une partie qui, au-delà de la qualité de l'information que peuvent donner les scientifiques, et on sait qu'elle a été de bonne qualité sur l'alerte qu'ils ont sonné sur les besoins d'atténuation qui demeurent aujourd'hui, il y a vraiment un problème aussi d'écoute et de vraiment agir une fois que cette alerte a été donnée. Mais quand même, donc, si on se place dans cette perspective d'offrir de meilleures données, en tout cas d'être en dialogue permanent avec la société, qu'est-ce que ça veut dire, Gilles, pour ton travail, toi, de paléoclimatologue, qui travaille donc sur des climats très, très anciens?
Alors, pour un paléoclimatologue, quelqu'un qui travaille comme moi sur le passé relativement lointain, ça ne va pas changer forcément, parce qu'on n'est pas les plus à même de contribuer directement à l'impact.
Oui.
Par contre, on est capable de montrer ce qui s'est déjà passé. En fait, là où ça change vraiment beaucoup de choses, c'est que ce n'est plus tout à fait la même façon de travailler. Ce n'est pas pareil de travailler avec des gens dans les secteurs sociaux, d'écouter leurs demandes, d'essayer d'améliorer les simulations et les réponses. Ça demande vraiment un travail pluridisciplinaire, comme Massal disait. Ça demande de sortir un peu de sa tour d'ivoire, d'aller voir les gens et d'essayer de faire qu'ils comprennent au mieux un message qui peut-être peut être, d'après nous, très explicite, mais qui pour eux ne répond pas complètement à leurs questions. Donc c'est vraiment une autre façon de travailler qui est plus de la recherche plus appliquée, plus d'impact. Il faut faire attention d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que si on n'a pas d'augmentation de postes et qu'on met plus de gens sur l'impact, au bout d'un moment, il y aura moins de recherche fondamentale et l'appliquer sans recherche fondamentale, ça ne marche pas très longtemps. Donc évidemment, comme on est dans l'urgence, il y a quand même une impérieuse nécessité à répondre à ces questions sociétales, ça c'est sûr. Une autre réponse à tes questions qui me traverse l'esprit là, mais qui je pense est importante, c'est que moi je suis déjà assez âgé, donc j'ai travaillé toute ma vie par accumulation des savoirs. J'ai commencé par travailler sur des modèles atmosphériques et je termine ma carrière avec des modèles qu'on appelle un peu pompeusement système Terre, qui contiennent l'atmosphère, l'océan, la végétation terrestre, la végétation marine, la chimie atmosphérique et stratosphérique. Donc des modèles qui essaient de capturer l'ensemble du fonctionnement du système Terre. Maintenant, dans ce contexte-là, arrive l'intelligence artificielle et le fait qu'on va être de plus en plus en mesure grâce au numérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques, de faire des choses qui sont extrêmement sophistiquées du point de vue numérique, avec une possibilité d'explorer plein de scénarios. Et ça, j'imagine que ça va aussi changer notre métier. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire du développement et de la recherche de long terme, pas simplement répondre à l'urgence climatique. C'est très important, en fait, ça.
Oui, ça, c'est une question fascinante, peut-être difficile aussi pour la communauté scientifique, pour toi et tes collègues, mais aussi pour les étudiants qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Est-ce que, sans faire de mauvais jeu de mots et sans terminer sur une note déprimante, mais est-ce que paléoclimatologue, finalement, c'est plus vraiment un métier du futur ou si, quand même, il faut continuer à réussir à attirer des gens qui s'intéressent à ces questions, même en regardant un lointain passé qui est un petit peu plus loin de l'urgence du présent et du futur qui arrive?
Ben, c'est une très bonne question, Céline, parce que c'est vraiment une question que je me suis posée assez récemment, qui est que, en fait, les étudiants qui nous arrivent, qui ont envie de s'impliquer dans la recherche, bon, d'abord, c'est un petit nombre d'étudiants, ça reste un petit nombre d'étudiants, et en général, et de plus en plus fréquemment, ils m'écoutent, ils sont sans doute intéressés, mais ils me disent, oui, d'accord, Gilles, c'est sans doute très intéressant, par exemple, la fin d'un épisode de glaciaire, pourquoi ça va avoir peut-être des influences sur le développement de la vie. C'est sans doute un problème fondamental très intéressant. Mais là, tu vois, compte tenu de l'urgence de la situation, je préfère choisir une thèse où j'aurai l'impression d'être utile. Et moi, je dois dire que j'ai pas beaucoup d'arguments contre ça, parce que j'aurai 25 ans aujourd'hui, je serai sensible à ça. C'est pas possible de pas être sensible à ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'étudiants, bien sûr, mais ça veut dire qu'on en aura moins. Et qu'on va travailler dans un moment un peu particulier, parce qu'en général, en recherche fondamentale, tu travailles un peu hors pression, c'est-à-dire, voilà, t'as pas cette pression sociétale qui vient toquer à ta porte pour te dire, attends, mais là maintenant, on a besoin de vous ici. Et je pense que c'est un peu dangereux, à court terme, c'est complètement compréhensible, mais comme on ne peut pas réfléchir qu'à court terme, il faut aussi se rendre compte que on a besoin de recherche fondamentale. On a toujours besoin de recherche fondamentale. Il n'y a pas de recherche appliquée de long terme sans recherche fondamentale. Donc, il faut absolument être capable de marcher sur ses deux jambes.
Eh bien, on va terminer sur ces réflexions. Merci beaucoup à tous les trois. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Édifier, Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sundungs pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Si vous aimez Le Climat en question, n'hésitez pas à vous abonner. On a maintenant près de 60 épisodes disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous proposer votre aide, vos sujets, vos commentaires par email également. Le Climat en question avec un S @ecomail.fr. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.